Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous reprenons aujourd'hui la lecture du livre « Attente de Dieu ». C'est, comme nous l'avons lu au début de notre précédente émission, non pas un livre construit dans un but précis, mais c'est un ensemble de lettres écrites par Simone Veil entre le 19 janvier et le 26 mai 1942. Et, en accord avec le prêtre qu'elle a rencontré pendant cette période de découverte de la foi, prêtre avec qui elle a une grande confiance, ces lettres sont devenues un livre où les joies, les peines et les tourmentes de Simone Veil nous parleront de son cheminement spirituel. Une sorte d'autobiographie spirituelle pour elle qui, venue tout droit d'une famille où régnait l'agnosticisme, c'est en fait à travers ce que la vie lui a fait voir et partager dans les luttes sociales et l'assistance aux plus défavorisés qu'elle a trouvé le chemin de la foi en 1938. « Le Christ est descendu et m'a prise », écrira-t-elle lors de la Semaine Sainte à l'abbaye de Solesmes. Écoutons-la. Chapitre 2. C'est la suite du premier sujet que nous avions commencé. Hésitation devant le baptême. Mon cher père, ceci est un post-scriptum à la lettre dont je vous disais qu'elle était provisoirement une conclusion. J'espère pour vous que ce sera le seul. Je crains bien de vous ennuyer. Mais s'il en est ainsi, prenez-vous-en à vous-même. Ce n'est pas ma faute si je crois vous devoir compte de mes pensées. Les obstacles d'ordre intellectuel qui, jusqu'ici, ces derniers temps m'avaient arrêté au seuil de l'Église, peuvent être regardés à la rigueur comme éliminés, dès lors que vous ne refusez pas de m'accepter tel que je suis. Pourtant, des obstacles restent. Tout bien considéré, je crois qu'ils se ramènent à ceci. Ce qui me fait peur, c'est l'Église en tant que chose sociale. Non pas seulement à cause de ses souillures, mais du fait même qu'elle ait, entre autres, caractère une chose sociale. Non pas que je sois d'un tempérament très individualiste. J'ai peur pour la raison contraire. J'ai en moi un fort penchant grégaire. Je suis, par disposition naturelle, extrêmement influençable. Influençable à l'excès et surtout aux choses collectives. Je sais que si j'avais devant moi en ce moment une vingtaine de jeunes Allemands chantant en chœur des chants nazis, une partie de mon âme deviendrait immédiatement nazie. C'est là une très grande faiblesse, mais c'est ainsi que je suis. Je crois qu'il ne sert à rien de combattre directement les faiblesses naturelles. Il faut se faire violence pour agir comme si on ne les avait pas dans les circonstances où un devoir l'exige impérieusement. Et dans le cours ordinaire de la vie, il faut bien les connaître, en tenir compte avec prudence et s'efforcer d'en faire bon usage, car elles sont toutes susceptibles d'un bon usage. J'ai peur de ce patriotisme de l'Église qui existe dans les milieux catholiques. J'entends patriotisme au sens du sentiment qu'on accorde à une patrie terrestre. J'en ai peur parce que j'ai peur de le contracter par contagion. Non pas que l'Église me paraisse indigne d'inspirer un tel sentiment, mais parce que je ne veux pas, pour moi, d'aucun sentiment de ce genre. Le mot « vouloir » est impropre, je sais. Je sens avec certitude que tout sentiment de ce genre, quel qu'en soit l'objet, est funeste pour moi. Des saints ont approuvé les croisades, l'Inquisition. Je ne peux pas ne pas penser qu'ils ont eu tort. Je ne peux pas récuser la lumière de la conscience. Si je pense que sur un point, je vois plus clair que moi qui suis tellement loin au-dessous d'eux, je dois admettre que, sur ce point, ils ont été aveuglés par quelque chose de très puissant. Ce quelque chose, c'est l'Église en tant que chose sociale. Si cette chose sociale leur a fait du mal, quel mal ne me ferait-elle pas à moi, qui suis particulièrement vulnérable aux influences sociales et qui suis presque infiniment plus faible qu'eux. On n'a jamais rien dit ni écrit qui aille si loin que les paroles du diable au Christ dans Saint Luc concernant les royaumes de ce monde. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire qui y est attachée, car elle m'a été abandonnée à moi et à tout être à qui je veux en faire part. Il en résulte que le social est irréductiblement le domaine du diable. La chair pousse à dire « moi » et le diable pousse à dire « nous » ou bien à dire, comme les dictateurs, « je » avec une signification collective. Et conformément à sa mission propre, le diable fabrique une fausse imitation du divin, de l'ersatz de divin. Par social, je n'entends pas tout ce qui se rapporte à une cité, mais seulement les sentiments collectifs. Je sais bien qu'il est inévitable que l'Église soit aussi une chose sociale, sans quoi elle n'existerait pas. Mais pour autant qu'elle est une chose sociale, elle appartient au prince de ce monde. C'est parce qu'elle est un organe de conservation et de transmission de la vérité qu'il y a là un extrême danger pour ceux qui sont, comme moi, vulnérables à l'excès aux influences sociales. Car ainsi, ce qu'il y a de plus pur et ce qui souille le plus étant semblables et confondus sous les mêmes mots font un mélange presque indécomposable. Il existe un milieu catholique prêt à accueillir chaleureusement quiconque y entre. Or, je ne veux pas être adopté dans un milieu, habiter dans un milieu où on dit « nous » et être une partie de ce « nous », me trouver chez moi dans un milieu humain quel qu'il soit. En disant que je ne veux pas, je m'exprime mal, car je le voudrais bien, tout cela est délicieux. Mais je sens que cela ne m'est pas permis. Je sens qu'il m'est nécessaire, qu'il m'est prescrit de me trouver seule, étrangère et en exil par rapport à n'importe quel milieu humain, sans exception. Cela semble en contradiction avec ce que je vous écrivais sur mon besoin de me fondre avec n'importe quel milieu humain où je passe et d'y disparaître. Mais en réalité, c'est la même pensée. Y disparaître n'est pas en faire partie, et la capacité de me fondre dans tous implique que je ne fasse partie d'aucun. Je ne sais pas si je parviens à vous faire comprendre ces choses presque inexprimables. Ces considérations concernent ce monde et semblent misérables si on met en regard le caractère surnaturel des sacrements. Mais, justement, je crains en moi le mélange impur du surnaturel et du mal. La faim est un rapport à la nourriture, certes, beaucoup moins complet, mais aussi réel que l'acte de manger. Il n'est peut-être pas inconcevable que chez un être ayant telle disposition naturelle, tel tempérament, tel passé, telle vocation, et ainsi de suite, le désir et la privation des sacrements puissent constituer un contact plus pur que la participation. Je ne sais pas du tout s'il en est ainsi pour moi ou non. Je sais bien que ce serait quelque chose d'exceptionnel, et il semble qu'il y ait toujours une folle présomption à admettre qu'on puisse être une exception. Mais le caractère exceptionnel peut très bien procéder non pas d'une supériorité, mais d'une infériorité par rapport aux autres. Je pense que ce serait mon cas. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, je ne me crois actuellement capable en aucun cas d'un véritable contact avec les sacrements, mais seulement du pressentiment qu'un tel contact est possible. À plus forte raison, ne puis-je pas vraiment savoir actuellement quelle espèce de rapport avec eux me convient. Il y a des moments où je suis tentée de m'en remettre entièrement à vous et de vous demander de décider pour moi. Mais, en fin de compte, je ne peux pas, je n'en ai pas le droit. Je crois que dans les choses très importantes, on ne franchit pas les obstacles. On les regarde fixement aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce que, dans le cas où ils procèdent des puissances d'illusion, ils disparaissent. Ce que j'appelle obstacle est autre chose que l'espèce d'inertie qu'il faut surmonter à chaque pas qu'on fait dans la direction du bien. J'ai l'expérience de cette inertie. Les obstacles sont tout autre chose. Si on veut les franchir avant qu'ils aient disparu, on risque des phénomènes de compensation auxquels fait allusion, je crois, le passage de l'Évangile sur l'homme de chez qui un démon est parti et chez qui ensuite sept démons sont revenus. La simple pensée que je pourrais jamais, au cas où je serais baptisé, dans des dispositions autres que celles qui conviennent, avoir par la suite même un seul instant, un seul mouvement intérieur de regret, cette pensée me fait horreur. Même si j'avais la certitude que le baptême est la condition absolue du salut, je ne voudrais pas, en vue de mon salut, courir ce risque. Je choisirais de m'abstenir tant que je n'aurais pas la conviction de ne pas courir ce risque. On a une telle conviction seulement quand on pense qu'on agit par obéissance. L'obéissance seule est invulnérable au temps. Si j'avais mon salut éternel posé devant moi sur cette table, et si je n'avais qu'attendre la main pour l'obtenir, je ne tendrais pas la main aussi longtemps que je ne penserais pas en avoir reçu l'ordre. Du moins, j'aime à le croire. Et si au lieu du mien, c'était le salut éternel de tous les êtres humains passés, présents et à venir, je sais qu'il faudrait faire de même. Là, j'y aurais de la peine. Mais si j'étais seule en cause, il me semble presque que je n'y aurais pas de peine, car je ne désire pas autre chose que l'obéissance elle-même dans sa totalité, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Pourtant, je n'ai pas le droit de parler ainsi. En parlant ainsi, je mens. Car si je désirais cela, je l'obtiendrais. Et en fait, il m'arrive continuellement de tarder des jours et des jours dans l'accomplissement d'obligations évidentes que je sens comme telles, faciles et simples à exécuter en elles-mêmes et importantes par leurs conséquences possibles pour les autres. Mais il serait trop long et sans intérêt de vous entretenir de mes misères, et ce ne serait sans doute pas utile, sauf toutefois pour vous empêcher de faire erreur à mon sujet. Croyez bien toujours à ma très vive reconnaissance. Vous savez, je pense que ce n'est pas une formule. Simone Veil. Chapitre 3. À propos de son départ. Une note. La question qui l'a tourmenté était celle de son départ pour l'Amérique, qui l'éloignait des dangers de l'occupation imminente de la zone libre. Pour elle, ce n'était pas une question de danger, mais de service. À New York, elle dépérira de chagrin dans son impatience de passer à Londres. Plus profondément, elle aspire à cette mission périlleuse, voire de sabotage, qui la fera tomber dans le malheur et la mort. Elle y voit plus qu'un trait de son caractère. Elle y sent une vocation. « Je suis hors de la vérité. Rien d'humain ne peut m'y transporter. Et j'ai la certitude intérieure que Dieu ne m'y transportera pas d'une autre manière que celle-là. Une certitude de la même espèce que celle qui est à la racine d'une vocation. Tiré des Écrits de Londres, lettre à Maurice Schumann. Ce départ était pour elle une question de conscience où elle pressentait sa vie et sa mort engagée, mort que par-dessus tout, elle ne voulait pas manquer. 16 avril 1942. Mon père. Sauf imprévu, nous nous verrons dans 8 jours pour la dernière fois. Je dois partir à la fin du mois. Si vous pouviez arranger les choses de manière que nous puissions parler à loisir de ce choix de texte, ce serait bien. Mais je suppose que ce ne sera pas possible. Je n'ai aucune envie de partir. Je partirai avec angoisse. Les calculs de probabilité qui me déterminent sont si incertains qu'ils ne me soutiennent guère. La pensée qui me guide et qui habite en moi depuis des années, de sorte que je n'ose pas l'abandonner, quoique les chances de réalisation soient faibles, est assez proche du projet pour lequel vous avez eu la grande générosité de m'aider il y a quelques mois et qui n'a pas réussi. Au fond, la principale raison qui me pousse, c'est qu'étant donné la vitesse acquise et le concours des circonstances, il me semble que c'est la décision de rester qui serait de ma part un acte de volonté propre. Et mon plus grand désir est de perdre non seulement toute volonté, mais tout être propre. Il me semble que quelque chose me dit de partir. Quand je suis tout à fait sûre que ce n'est pas la sensibilité, je m'y abandonne. J'espère que cet abandon, même si je me trompe, me mènera finalement à bon port. Ce que j'appelle bon port, vous le savez, c'est la croix. S'il ne peut m'être donné un jour de mériter avoir part à celle du Christ, au moins celle du bon larron. De tous les êtres autres que le Christ dont il est question dans l'Évangile, le bon larron est de loin celui que j'envie davantage. Avoir été aux côtés du Christ et dans le même état pendant la crucifixion me paraît un privilège beaucoup plus enviable que d'être à sa droite dans sa gloire. Quoique la date soit proche, ma décision n'est pas prise encore d'une manière tout à fait irrévocable. Ainsi, si par hasard vous aviez un conseil à me donner, ce serait le moment. Mais n'y réfléchissez pas particulièrement. Vous avez beaucoup de choses beaucoup plus importantes à quoi penser. Une fois parti, il me paraît peu probable que les circonstances me permettent un jour de vous revoir. Quant aux rencontres éventuelle dans une autre vie, vous savez que je ne me représente pas les choses ainsi. Mais peu importe, il suffit à mon amitié pour vous que vous existiez. Je ne pourrais pas m'empêcher de penser avec une vive angoisse à tous ceux que j'aurais laissés en France et à vous particulièrement. Mais cela aussi est sans importance. Je crois que vous êtes de ceux à qui, quoi qu'il arrive, il ne peut jamais arriver aucun mal. La distance n'empêchera pas ma dette envers vous de s'accroître avec le temps de jour en jour, car elle ne m'empêchera pas de penser à vous. Et il est impossible de penser à vous sans penser à Dieu. Croyez à mon amitié filiale. Signé Simone Veil. PS. Vous savez qu'il s'agit, pour moi, de toute autre chose, dans ce départ, que de fuir les souffrances et les dangers. Mon angoisse vient précisément de la crainte de faire, en partant malgré moi et à mon insu, ce que je voudrais par-dessus tout ne pas faire, à savoir fuir. Jusqu'ici, on a vécu ici fort tranquille. Si cette tranquillité disparaissait précisément après mon départ, ce serait affreux pour moi. Si j'avais la certitude qu'ils doivent en être ainsi, je crois que je resterai. Si vous savez des choses qui permettent des prévisions, je compte sur vous pour me les communiquer. Autobiographie spirituelle. À lire pour commencer, PS. Cette lettre est effroyablement longue, mais comme il n'y a pas lieu d'y répondre, d'autant moins que je serai sans doute partie, vous avez des années devant vous, si vous voulez, pour en prendre connaissance. Prenez-en connaissance quand même, un jour ou l'autre. De Marseille, 15 mai environ. Mon père. Avant de partir, je veux encore vous parler. Pour la dernière fois peut-être, car de là-bas, je ne ferai sans doute que vous envoyer parfois de mes nouvelles pour avoir des vôtres. Je vous ai dit que j'avais une dette immense envers vous. Je veux tâcher de vous dire exactement et honnêtement en quoi elle consiste. Je pense que si vous pouviez vraiment comprendre quelle est ma situation spirituelle, vous n'auriez aucun chagrin de ne pas m'avoir amené au baptême. Mais je ne sais si c'est possible pour vous. Vous ne m'avez pas apporté l'inspiration chrétienne ni le Christ, car quand je vous ai rencontré, cela n'était plus à faire, c'était fait, sans l'entremise d'aucun être humain. S'il n'en avait pas été ainsi, et si je n'avais pas déjà été prise, non seulement implicitement, mais consciemment, vous ne m'auriez rien donné, car je n'aurais rien reçu de vous. Mon amitié pour vous aurait été une raison pour moi de refuser votre message, car j'aurais eu peur des possibilités d'erreur et d'illusions impliquées par une influence humaine dans le domaine des choses divines. Je peux dire que, dans toute ma vie, je n'ai jamais à aucun moment cherché Dieu. Pour cette raison peut-être, sans doute trop subjective, c'est une expression que je n'aime pas et qui me paraît fausse. Dès l'adolescence, j'ai pensé que le problème de Dieu est un problème dont les données manquent ici-bas et que la seule méthode certaine pour éviter de le résoudre à faux, ce qui me semblait le plus grand mal possible, était de ne pas le poser. Ainsi, je ne le posais pas. Je n'affirmais ni ne niais. Il me paraissait inutile de résoudre ce problème, car je pensais qu'étant en ce monde, notre affaire était d'adopter la meilleure attitude à l'égard des problèmes de ce monde, et que cette attitude ne dépendait pas de la solution du problème de Dieu. C'était vrai, du moins pour moi, car je n'ai jamais hésité dans ce choix d'une attitude. J'ai toujours adopté comme seule attitude possible l'attitude chrétienne. Je suis pour ainsi dire née, j'ai grandi, je suis toujours demeurée dans l'inspiration chrétienne. Alors que le nom même de Dieu n'avait aucune part dans mes pensées, j'avais, à l'égard des problèmes de ce monde et de cette vie, la conception chrétienne d'une manière explicite, rigoureuse, avec les notions les plus spécifiques qu'elle comporte. Certaines de ces notions sont en moi aussi loin que mes souvenirs remontent. Pour d'autres, je sais quand, de quelle manière et sous quelle forme elles se sont imposées à moi. Par exemple, je me suis toujours interdit de penser à une vie future, mais j'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où, pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle, entre dans l'âme. Je peux dire que jamais je n'ai désiré pour moi un autre bien. Je pensais que la vie qui mène à ce bien n'est pas définie seulement par la morale commune, mais que, pour chacun, elle consiste en une succession d'actes et d'événements qui lui est rigoureusement personnel et tellement obligatoire que celui qui passe à côté manque le but. Telle était pour moi la notion de vocation. Je voyais le critérium des actions imposées par la vocation dans une impulsion essentiellement et manifestement différente de celle qui procède de la sensibilité ou de la raison. Et ne pas suivre une telle impulsion, quand elle surgissait, même si elle ordonnait des impossibilités, me paraissait le plus grand des malheurs. C'est ainsi que je concevais l'obéissance, et j'ai mis cette conception à l'épreuve, quand je suis entrée et suis demeurée en usine, alors que je me trouvais dans cet état de douleur intense et ininterrompue que je vous ai récemment avoué. La plus belle vie possible m'a toujours paru être celle où tout est déterminé, soit par la contrainte des circonstances, soit par de telles impulsions et où il n'y a jamais place pour aucun choix. À 14 ans, je suis tombée dans un de ces désespoirs sans fond de l'adolescence et j'ai sérieusement pensé à mourir à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. Les dons extraordinaires de mon frère, qui a eu une enfance et une jeunesse comparables à celle de Pascal, me forçaient à en avoir conscience. Je ne regrettais pas les succès extérieurs, mais de ne pouvoir espérer aucun accès à ce royaume transcendant où les hommes authentiquement grands sont seuls à entrer et où habite la vérité. J'aimais mieux mourir que de vivre sans elle. Après des mois de ténèbres intérieures, j'ai eu soudain et pour toujours la certitude que n'importe quel être humain, même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce monde de la vérité réservé au génie si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention pour l'atteindre. Il devient ainsi, lui aussi, un génie, même si, faute de talent, ce génie ne peut pas être visible à l'extérieur. Plus tard, quand les maux de tête ont fait peser sur le peu de facultés que je possède une paralysie que, très vite, j'ai supposée probablement définitive, cette même certitude m'a fait persévérer pendant 10 ans dans des efforts d'attention que ne soutenait presque aucun espoir de résultat. Sous le nom de vérité, j'englobais aussi la beauté, la vertu et toute espérance de bien, de sorte qu'il s'agissait pour moi d'une conception du rapport entre la grâce et le désir. La certitude que j'avais reçue, c'était que quand on désire du pain, on ne reçoit pas des pierres. Mais en ce temps, je n'avais pas lu l'Évangile. Autant j'étais certaine que le désir possède par lui-même une efficacité dans ce domaine du bien spirituel sous toutes ses formes, autant je croyais pouvoir l'être aussi qu'il n'est efficace dans aucun autre domaine. Quant à l'esprit de pauvreté, je ne me rappelle pas de moment où il n'ait pas été en moi, dans la mesure malheureusement faible où cela était compatible avec mon imperfection. Je me suis éprise de Saint François dès que j'ai eu connaissance de lui. Je l'ai toujours cru et espéré que le sort me pousserait un jour par contrainte dans cet état de vagabondage et de mendicité où il est entré librement. Je ne pensais pas parvenir à l'âge que j'ai sans être au moins passé par là. Il en est de même d'ailleurs pour la prison. J'ai eu aussi, dès la première enfance, la solution chrétienne de charité du prochain, à laquelle je donnais ce nom de justice qu'elle a dans plusieurs endroits de l'Évangile et qui est si beau. Vous savez que sur ce point, depuis, j'ai gravement défailli plusieurs fois. Le devoir d'acceptation à l'égard de la volonté de Dieu, quelle qu'elle puisse être, s'est imposé à mon esprit comme le premier et le plus nécessaire de tous, celui auquel on ne peut manquer sans se déshonorer. Dès que je l'ai trouvé exposé dans Marc Aurèle sous la forme de l'amor fati stoïcien, la notion de pureté, avec tout ce que ce mot peut impliquer pour un chrétien, s'est emparée de moi à 16 ans, après que j'avais traversé pendant quelques mois les inquiétudes sentimentales naturelles de l'adolescence. Cette notion m'est apparue dans la contemplation d'un paysage de montagne et peu à peu s'est imposée d'une manière irrésistible. Bien entendu, je savais très bien que ma conception de la vie était chrétienne. C'est pourquoi il ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais entrer dans le christianisme. J'avais l'impression d'être née à l'intérieur. Mais, ajouté à cette conception de la vie, le dogme lui-même, sans y être contrainte par une évidence, m'aurait paru un manque de probité. J'aurais cru même manquer de probité en me posant comme un problème la question de la vérité du dogme, ou même simplement en désirant parvenir à une conviction à ce sujet. J'ai de la probité intellectuelle une notion extrêmement rigoureuse, au point que je n'ai jamais rencontré personne qui ne m'ait paru en manquer à plus d'un égard. Et je crains toujours d'en manquer moi-même. M'abstenant ainsi du dogme, j'étais empêchée par une sorte de pudeur d'aller dans les églises où pourtant j'aimais me trouver. Pourtant, j'ai eu 3 contacts avec le catholicisme qui ont vraiment compté. Après mon année d'usine, avant de reprendre l'enseignement, mes parents m'avaient emmené au Portugal. Et là, je les ai quittés pour aller seule dans un petit village. J'avais l'âme et le cœur en quelque sorte en morceaux. Ce contact avec le malheur avait tué ma jeunesse. Jusque-là, je n'avais pas eu l'expérience du malheur. Sinon, le mien propre, qui, étant le mien, me paraissait de peu d'importance et qui d'ailleurs n'était qu'un demi-malheur étant biologique et non social. Je savais bien qu'il y avait beaucoup de malheurs dans le monde. J'en étais obsédée, mais je ne l'avais jamais constaté par un contact prolongé. Étant en usine, confondue aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Rien ne m'en séparait, car j'avais réellement oublié mon passé et je n'attendais aucun avenir. Pouvant difficilement imaginer la possibilité de survivre à cette fatigue. Ce que j'ai subi là m'a marqué d'une manière si durable qu'aujourd'hui encore, lorsqu'un être humain, quel qu'il soit, dans n'importe quelle circonstance, me parle sans brutalité, je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression qu'il doit y avoir erreur et que l'erreur va sans doute, malheureusement, se dissiper. J'ai reçu là pour toujours la marque de l'esclavage, comme la marque au fer rouge que les Romains mettaient au front de leurs esclaves les plus méprisés. Depuis, je me suis toujours regardée comme une esclave. Étant dans cet état d'esprit et dans un état physique misérable, je suis entrée dans ce petit village portugais qui était hélas très misérable. Aussi, seule, le soir, sous la pleine lune, le jour même de la fête patronale. C'était au bord de la mer. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques, en procession, portant des cierges et chantaient des cantiques, certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Rien ne peut en donner une idée. Je n'ai jamais rien entendu de si poignant, sinon le chant des râleurs de la Volga. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. En 1937, j'ai passé à Assise 2 jours merveilleux. Là, étant seule dans la petite chapelle romane du XVIIe siècle, du XIIe siècle, pardon, de Santa Maria degli Angeli, incomparable merveille de pureté où Saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. En 1938, j'ai passé 10 jours à Solemnes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques, en suivant tous les offices. J'avais des maux de tête intenses, chaque son me faisait mal comme un coup, et un extrême effort d'attention me permettait de sortir hors de cette misérable chair, de la laisser souffrir seule, tassée dans son coin, et de trouver une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe du chant et des paroles. Cette expérience m'a permis, par analogie, de mieux comprendre la possibilité d'aimer l'amour divin à travers le malheur. Il va de soi qu'au cours de ces offices, la pensée de la passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes. Il y avait là un jeune Anglais catholique qui m'a donné pour la première fois l'idée d'une vertu surnaturelle des sacrements par l'éclat véritablement angélique dont il paraissait revêtu après avoir communié. Le hasard, car j'aime toujours mieux dire le hasard que la providence, a fait de lui, pour moi, vraiment un messager, car il m'a fait connaître l'existence de ces poètes anglais du XVIIe siècle qu'on nomme métaphysique. Plus tard, en les lisant, j'y ai découvert le poème, dont je vous ai lu une traduction malheureusement bien insuffisante, celui qui est intitulé « Amour ». Je l'ai appris par cœur. Souvent, au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercée à le réciter, en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qui l'enferme. Je croyais le réciter seulement comme un beau poème, mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. Et c'est au cours d'une de ces récitations que, comme je vous l'ai écrit, le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Voici le terme de ce poème. Amour. L'amour m'accueillit pourtant, mon âme recula, coupable de poussière et de péché. Mais l'amour clairvoyant, me voyant hésiter, dès ma première entrée, se rapprocha de moi, demandant doucement s'il me manquait quelque chose. « Un invité, répondis-je, digne d'être ici. » L'amour dit, « Tu seras lui ?»« Moi, le méchant, l'ingrat ? Ah, mon aimé, je ne puis te regarder !» L'amour prit ma main et répondit en souriant, « Qui a fait ses yeux, sinon moi ?»« C'est vrai, Seigneur, mais je les ai souillés, que ma honte aille où elle mérite. » « Et ne sais-tu pas, dit l'amour, qui en a pris sur lui le blâme ?»« Mon aimé, alors je servirai ?»« Il faut t'asseoir, dit l'amour, et goûter à mes. » Ainsi, je m'assis et je mangeai. » Nous poursuivons la lecture de ce livre à travers des lettres échangé. À travers les lettres échangées entre Simone Veil et le prêtre Perrin, qui a bien voulu regrouper en un livre l'échange de courriers, objet de ce livre. Nous le terminerons par la lecture de ce poème, donc. Et je vous le propose, n'oubliez pas, je lis pour vous une émission de Radio Alliance Plus en direct sur 103.2 FM et DAB+. Les mardis et mercredis 21h30, rediffusion lundi et mardi à 6h. À bientôt, chers auditeurs.